Nous allons continuer avec la lecture des psaumes que nous avons commencé dans cette période estivale. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir le psaume 30, si vous avez vos Bibles avec vous. Sinon, vous trouverez à l'entrée. Et le thème que j'ai choisi pour ce texte est « La grâce de Dieu dure toute la vie, pour la durée des temps ». J'ai trois tableaux avec des textes, si toutefois ça veut apparaître. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le premier tableau?
Je proclame ta grandeur, éternelle, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin l'allégresse.
Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma faillite. Tu t'es caché et j'étais épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière se célèbre-t-elle? À peut-être ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi.
Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as béni mon sac, tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours.
Éternel, je te louerai toujours. La grâce de Dieu dure toute la vie. Notre psaume, vous l'avez remarqué, est un poème. D'ailleurs, comme tous les psaumes, qui sont des chants ou des poèmes. Ce psaume est un poème de reconnaissance et de louange. En effet, dans les paroles, les deux attitudes de ceux et celles qui ont mis leur confiance en Dieu, qu'ils croient, se rejoignent. C'est à la fois être reconnaissant et louer Dieu. La reconnaissance et la louange. Donc, tel que le psaume 23, que nous avons vu la dernière fois, les deux dernières semaines d'ailleurs, le premier et le dernier verset du psaume reviennent ou commencent et reviennent à la fin à la louange de Dieu. D'ailleurs, c'est une particularité dans la plupart des psaumes que nous lisons dans la Bible. Le début et la fin sont identiques. Donc, ce qui caractérise l'auteur, qui est David, c'est dans sa foi et dans sa vie. Il profite pleinement de la faveur de Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment que vous profitez pleinement de la faveur de Dieu? Est-ce que vous remarquez que vous êtes des personnes bénies qui vivent sous la grâce de Dieu? Donc, de la faveur de Dieu, il se dégage en permanence l'impression de la solidité, d'avoir une assurance profonde. D'ailleurs, il est chez certaines personnes étrange à voir que nous chrétiens, ou en tout cas un certain nombre de chrétiens que nous sommes, nous parlons avec une assurance. Comme les personnes me demandent, mais Olaf, tu parles comme si tu le croyais. Et ça, c'est le propre de la foi, hein, d'en parler comme si on le croyez vraiment, et on le croit. Profiter de la faveur de Dieu, c'est avoir une vie pleine de vitalité. C'est pas une vie morose, comme quelqu'un a dit, nous les chrétiens, nous sommes joyeux, mais seulement dans notre fort intérieur. Profiter de la faveur de Dieu, c'est d'être plein de vitalité. Mais cette assurance, le psalmiste ne le puise pas par lui-même. Cette assurance n'habite pas naturellement sa vie ni son cœur. Cette assurance lui vient de la grâce de Dieu, plus précisément de la faveur de Dieu, comme dit le psaume, verset 6, « Sa grâce dure toute une vie ». Donc le mot « grâce » désigne l'amour particulier que Dieu te porte. Est-ce que tu vis sous la grâce de Dieu? Sous un amour particulier que Dieu te porte? L'amour de Dieu qui se trouve au sein de l'alliance avec son peuple, à ceux et celles qui lui sont fidèles. C'est l'ensemble des bénédictions qui l'accompagnent. C'est la santé, ou de pouvoir vivre dans la maladie, le bien-être, ou de ne pas abandonner quand les temps sont un peu plus difficiles, vivre la paix, même dans un scénario qui peut être chaotique autour, connaître la sécurité, quoi qu'il nous arrive, et la prospérité qui ne se mesure pas en forme de monnaie, mais en proximité et prospérité dans la foi et la communion avec le Seigneur. Lorsque la faveur et la bénédiction divine pénètrent dans le temps de notre vie, dans notre histoire, elles rapportent non seulement une nouvelle qualité de vie, comparable à une véritable résurrection, dit le texte. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour du mort, tu m'as fait revivre. » Versets 3 et 4. Et certainement, plusieurs parmi vous peuvent témoigner de qu'est-ce que c'est cette montée d'une situation où nous étions au plus bas, comparée à un séjour de mort, ou des choses sans mort, ou en train de mourir, et vivre brusquement une remontée, comme une résurrection, parce que Dieu nous relève, il nous montre sa faveur, nous vivons, nous trouvons sa grâce. Tu m'as fait revivre. Et je crois que c'est un des premières caractéristiques d'une vie chrétienne. Non, ce n'est pas un fleuve tranquille. On n'est pas exempt de tous les malheurs qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais on les vit autrement. Et surtout, une fois en bas, on revit. Tomber, ce n'est pas grave, disait quelqu'un. Restez par terre. Restez allongé. Ça serait grave. Le Christ nous fait revivre. Pour ceux qui mettent leur confiance en lui, Dieu fait resplendir sa face sur eux et tout à coup, la vie sur terre, avec tous ses bienfaits, acquiert aussi une dimension spirituelle. Parce que les choses que tout le monde croit naturelles, pour nous, enfants de Dieu, ont une source, une raison spirituelle. C'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu sur notre et dans notre vie. Et lorsque la faveur et la bénédiction divine pénètrent dans notre histoire et dans notre vie, elle apporte l'assurance. Elle apporte cette assurance dans la durée et dans la permanence. Mais cette faveur divine, cette grâce céleste, appelle de la part du croyant la persévérance dans la foi. Ce n'est pas donnant-donnant, mais il y a cause et effet. Elle appelle à la persévérance de sa relation étroite avec le Seigneur. Sans la fidélité et sans l'obéissance active du croyant, verset 8, Dieu commence à cacher sa face. Pas à se cacher, mais uniquement se cacher de sorte que nous ne voyons plus sa face. Ça ne voudrait pas dire qu'il a disparu. Je me rappelle de mes enfants, quand elles étaient encore toutes petites, les filles, quand nous avons joué au cache-cache, c'était sympa. Elles se tiraient une grosse nappe, ou une serviette, ou tout ce qu'ils trouvaient, et se cachaient juste au-dessous. Je me suis caché. Tu me vois plus. Donc je faisais semblant, hein, comme bon papa, hein, qui joue avec son enfant. Je dis, où es-tu? Je te vois plus. Et c'était vrai, Et pas vrai du tout. Parce qu'effectivement, je ne voyais plus sa face. Mais je la voyais bien où elle se cachait. Sans la fidélité et l'obéissance active du croyant, verset 8, Dieu cache sa face. Et tous les acquis de la foi peuvent s'épanouir rapidement. S'évanouir, pardonnez-moi, rapidement. La présomption guette David, l'auteur de ce psaume, et il tombe dans son piège parce qu'il dit, écoutez, moi, je me disais à moi-même, je peux être tranquille, je ne le chancellerai pas, je tomberai jamais. Ça, c'est la présomption de celui qui croit que finalement la grâce de Dieu est devenue une forme de dû, quelque chose qui s'est installé pour toujours, qui reste dans cet état pour toujours. Non, les amis, c'est comme toute relation, il y a une forme de température, d'intensité qui dit que voilà, ce qui était acquis encore hier peut disparaître aujourd'hui si cette relation étroite avec une personne se perd. Et c'est ce que David disait, il était au sommet de sa gloire en tant que roi, et il disait, voilà, je me disais dans ma tranquillité, voilà, tout baigne. Hein? Qu'est-ce qui doit m'arriver? Et voilà, tu commences à devenir insouciant et tu commences à négliger ta relation avec le Seigneur. Tu commences à négliger une hygiène dans la vie chrétienne. Tu la vis à la légèreté et brusquement. Et brusquement. Vous n'avez jamais dit ou pensé, Dieu n'est jamais là qu'on a besoin de lui? Non, jamais? Moi, oui. Dieu n'est jamais là qu'on a besoin de lui. Je suis dans l'épreuve. Je suis dans la difficulté. Sur le plan familial, au niveau de la santé, financièrement ou professionnellement. Où est Dieu quand on a vraiment besoin de lui? D'après vous, qu'est-ce que dit une telle question qui n'est rien d'autre qu'une accusation? Dieu n'est jamais là quand on a besoin de lui. Tu le ressens plus parce que tu n'avais pas besoin de lui pour un certain temps. Dieu, il s'est caché sa face. Il a caché sa face sur ta vie. Il semble que je ne reçoive plus de réponse à mes prières. Il semble que les jours se suivent sans qu'il y ait des bénédictions particulières qui m'arrivent. Dieu a-t-il encore les yeux pour me voir et les oreilles pour m'entendre? Quand Dieu reste silencieux, verset 7, notre foi est ébranlée. Et quand Dieu reste silencieux, c'est en général quand nous avons commencé avec ce silence dans cette relation entre nous et notre Seigneur. Et petit à petit, ou même brusquement, nous sommes assaillis par toutes sortes et toutes formes de doutes. On a bien là les aspects de la vie qui avancent, comme on dit, en dents de scie. Une vie qui nous renvoie à notre réalité humaine, à notre propre inconstance, à l'irrégularité de notre foi, avec toutes ses peurs, ses craintes, ses faiblesses et ses échecs, quelquefois même répétés. Pourtant, j'ai dit dans ma foi, ou plutôt dans mon orgueil, je ne tomberai jamais. Et voilà, David, il est tombé. Pour certains, il peut agir de la pure et simple présomption lorsque nous comptons sur nos propres forces, sur nos propres capacités, sur nos propres compétences, et on s'adresse à Dieu uniquement là où on n'arrive plus tout seul, comme un roue de secours. Ça, c'est la présomption. Qui parmi nous peut dire aujourd'hui qu'il ne soit jamais tombé dans ses travers? J'ai arrêté tout simplement à compter. Ah, ce David, ce roi vaillant, appelé même être élu de Dieu, homme de fidélité, ce poète et musicien dont les talents ont été entièrement consacrés à la gloire de Dieu. Ce David, le voilà, pris au piège de la suffisance, de la présomption. Et ce qui était grâce, ce qui était qualité de sa vie, sa solidité, son assurance, lui sont devenus une fin en soi. Et ce qui était faveur de Dieu, pour lui est devenu un dû. Ce qui appelait humble reconnaissance est devenu j'en ai droit. J'en ai droit. C'est à cet instant-là, dans cette mentalité précise, que David trébuche et David pêche. Et la réaction de Dieu dans ce psaume, il est immédiate et il est radical. Dieu cache sa face. Et le fidèle est troublé, il est secoué, il est ébranlé, il est terrorisé, il est épouvanté, verset 8. Le fondement de sa foi s'évanouit sous lui. La colère divine se manifeste dans un châtiment soudain et immédiat, verset 6. C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. La maladie s'assaille, verset 3, et le voilà qui se trouve aux portes même de la mort et du séjour des morts. Complètement perdu, David écrit, et j'écris au secours, Seigneur. On pourrait ajouter un petit mot entre parenthèses, j'écris enfin au secours. Chacun de nous a une seuil de tolérance à la douleur, n'est-ce pas? Avant de crier au secours. Parfois la conséquence de nos péchés doit atteindre un niveau, malheureusement, jusqu'à ce que nous levons notre tête et nous cherchons celui qui jusqu'alors cache sa face, face à notre façon de vivre. La Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il désire de voir s'opérer en lui, dans son cœur et dans sa conscience, la repentance. Si le péché, si tu es tombé dans le piège du péché, que tu aies au moins la conscience qu'il faut changer, qu'il faut retrouver la face pour retrouver le pardon, pour l'obtenir, pour le demander et l'obtenir. Parce que la repentance est seule capable de nous donner une vie nouvelle, pour recevoir en retour le pardon divin. Ainsi le disait le prophète Ézéchiel en chapitre 18, verset 23. Et c'est Dieu qui parle. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de faire mourir des personnes mauvaises? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, ce que je veux, c'est qu'ils changent leur mauvaise manière de vivre et qu'ils vivent. Ou l'apôtre Paul le dit autrement en 1 Timothée chapitre 2, verset 4, car le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne désire pas qu'on se perde. On se perd tout seul. On n'a même pas besoin de Dieu pour nous perdre. C'est uniquement subir et vivre pleinement les conséquences de nos erreurs, de notre égarement, de notre distance prise avec le Seigneur. Face à l'irruption de la colère de Dieu, la réponse de David ne se fait pas attendre. Perdu, il appelle Dieu au secours. Il crie grâce. Il crie grâce. Est-ce que vous avez déjà participé à un spectacle de sport de lutte grecque? ou à la télé, ce combat de forme de catch, les hommes hyper costauds qui se jettent les uns sur les autres, se tordent les bras et les jambes, non? C'est le Raw? Non? Et comment ça s'appelle? Oui, voilà, tu le dis. Hein? Voilà. Comment fait la personne vaincue et qui demande d'être relâchée? Tu es cloué par terre, tu ne peux plus bouger et tu stoppes pour être enfin lâché. C'est à cela que je devais penser. Dieu est venu sur moi. Il m'a vaincu, à juste titre d'ailleurs. Et là, je suis par terre et je demande, grâce Seigneur, lâche-moi. Je voudrais revivre. Fais ma grâce, verset 11. On pourrait dire que le jugement de Dieu, et j'ai hésité d'écrire cette phrase, mais je vais oser quand même. On pourrait dire, peut-être, que le jugement ou les jugements de Dieu dans notre vie sont aussi une grâce qu'il nous accorde. Je ne sais pas si cette phrase vous choque, que jugement et grâce pour vous vont de pair. Il existe une forme d'éducation pédagogique où tout est permis à l'enfant. Bien sûr, l'enfant est appelé à corriger tel et tel comportement, mais jamais une conséquence. On ne tape pas sur les doigts, ni sur les fesses, ni sur les cuisses. En tout cas, on ne frappe pas son enfant. Aucune conséquence. On redit, on commence à crier, mais on ne touche pas à l'enfant. C'est une forte, forte punition, vous ne trouvez pas? Je me rappelle de Mike. Mike, c'était notre deuxième. Elle pouvait juste être assise et l'a découvert notre ancien disque vinyle, on dit c'est ça, musique? Voilà, ok. Donc, on n'a rien rangé pour nos enfants. Tout restait à place, les vases, la musique, tout. Parce que les enfants avaient droit d'y toucher, mais uniquement une seule fois. Et puis, on disait non, n'y touche pas. Et tous ceux qui sont parents parmi nous disent, des milliers de fois, j'ai dit ça, j'ai arrêté de compter. Donc, quand on a dit un non, tu n'y touches pas, c'était comme un électrochoc. Ça durait, je ne sais pas, 2 millisecondes. Et sa main était de nouveau sur le vinyle en me regardant. Vous connaissez ce regard qui vous prend en défi? Okay. Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne touches pas! Je te le dis une troisième, tu peux le dire autant que tu voudras. À un moment donné, l'enfant doit sentir qu'un non aura comme conséquence une conséquence. Voilà, donc, chez nous, les enfants ont reçu une petite tape à la main. C'était fait par la main, donc une petite tape à la main. C'était léger, hein? C'était pas une violence, quoique aujourd'hui, c'est peut-être déjà considéré comme une violence. À partir de ce moment-là, simplement à partir de ce moment-là, nos enfants ont arrêté. C'était miraculeux. Un jugement s'est appliqué sur eux. Et ils commençaient à obéir. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais ce temps était magnifiquement tranquille. Aujourd'hui, nos enfants sont grandes. Deux ont des enfants. Et qu'est-ce que nous voyons quand on les rend visite? Nos petits-enfants font comme leurs parents. Ça n'a pas changé. Dans nos familles, c'est génétique. Ça doit être génétique. Et qu'est-ce que font nos filles, devenues mamans? Qu'est-ce que font nos beaux-fils, gendres? Non, c'est le même regard de nos petits-enfants que nous ont lancé nos enfants. Voilà, il y a une petite conséquence en forme de jugement. Et il y a compréhension. Malheureusement, la correction verbale dans notre vie à nous, quand Dieu nous interpelle, n'est pas suffisant. Tu l'entends, si toutefois tu l'entends, tu en prends note, mais tu te crois suffisamment tranquille, en sécurité, Dieu est loin. Et brusquement, il y a un jugement qui s'abat sur notre vie, parce qu'il y a faute. Et ce jugement de Dieu dans notre vie, c'est une grâce parce qu'elle nous permet d'avoir une prise de conscience à laquelle on ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas une interpellation forte de notre Seigneur. Parce qu'il y a un appel à changer notre mentalité, notre comportement. Et c'est aussi un appel à la sanctification de nos âmes et de notre vie. Non, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, on ne fait plus n'importe quoi et n'importe comment. En lisant le verset 12, « Tu m'as retiré mes habits de deuil », il semble que cette dimension de pardon a été accompagnée d'un rite que parfois on connaît. C'est... Attends. Déjà fin. Voilà. C'est que les pénitents se couvraient pour manifester leur regret, leur repentance et leur humiliation avec un ancien sac. Et parfois même, ils ont ajouté du cendre sur la tête. Verset 12. « Que gagnais-tu ?» dit David, il interpelle le Seigneur. « Que gagnais-tu à verser mon sang et à me faire descendre dans la tombe ?» La poussière te célèbre-t-elle? Donc, c'est sur la tête hein, qu'il a. Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute l'Éternel. Aie plutôt pitié de moi. Secours-moi, versets 10 et 11. Et ce qui est dramatique dans ces instants de jugement pour David, ce n'est pas tellement qu'il est en face de la mort ou de la porte du séjour des morts, mais qu'il se voit arrivé à un point où il est malade, il pense à mourir sans la faveur, sans avoir retrouvé la faveur de Dieu. C'est donc pas la peur du jugement, c'est la peur de la relation perdue. Et je crois que c'est une bonne motivation de voir ou de revoir notre propre vie et notre propre comportement. Il semble que ce qui était vraiment dramatique pour David, c'est de perdre la vie, mais plus encore, qu'il ne pouvait plus sur la terre témoigner de la fidélité de Dieu dans sa vie. Et la réponse de Dieu, à partir du verset 2, Dieu entend son appel au secours, il voit sa repentance sincère, et il le renouvelle. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Et franchement, David, il revient de loin. Et quand il dit « Dieu m'a guéri », c'est tout un cheminement de retour vers Dieu. Il me relève sa faveur, verset 2. Et le mot hébreu pour « relever » signifie littéralement puiser ou retirer d'un seau d'eau, d'un puits. L'image s'applique parfaitement ici à la situation de crise de David. David tombe gravement malade. Il est même à l'article de la mort. Il se voit descendre dans la fosse, ici, donc le puits. Et à ce moment précis, Dieu le retire de là où il est, pour le faire revivre. Il le guérit, verset 2. Il le fait remonter au séjour des morts. Il le délivre des griffes de la mort. Il le fait revivre. Il le délie, lui enlève le sac poussereux du pénitent. Il lui accorde son pardon. Et David pardonné, qu'est-ce qui est sa première réaction? Il chante sa joie et sa reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez connu dans votre vie des passages où il vous fallait revenir de loin, où Dieu vous a relevé du très profond jusqu'à ce que vous ayez vu de nouveau la lumière. Chacun de nous peut connaître des telles crises dans notre vie, où on revient de loin, mais heureux celui et celle qui sont revenus. Ils chantent la joie et la reconnaissance. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête, car ta colère dure un instant. J'ai l'impression que certains instants durent éternellement, mais finalement la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Verset 12 et 6. David, objet de la faveur de Dieu, est donc rétabli dans sa vocation première d'être fidèle à Dieu. Et une fois guéri, une fois rétabli, délivré immédiatement, David se met à témoigner aux hommes de son temps les hauts faits, la fidélité et la grâce que Dieu accorde aux pécheurs qui veulent changer de vie. D'ailleurs, c'est le meilleur témoignage qu'il soit. Que tu peux raconter à quelqu'un ce que Dieu t'a fait. Les gens ne veulent pas entendre si Dieu a enrichi ta vie financièrement. Ils veulent savoir comment tu as pu être rétabli de là où tu revenais. Comment tu as été guéri? Qu'est-ce qui a fait que Dieu t'a pardonné? Et qu'est-ce que tu as fait pour être pardonné? Mes filles me demandaient très souvent le dimanche après le culte, donc c'était la grande critique de la prédication. Donc vous pouvez vous imaginer 5 femmes autour de la table, donc Imke et les 4 filles. Et les filles étaient très très critiques, mais dans un sens positif. Et c'est simple parce qu'ils connaissaient papa. Et croyez-moi, c'est pas facile de prêcher en tant que père à tes propres enfants. Voilà, et tu es pasteur. Parce que personne ne te connaît mieux que ta propre famille. N'est-ce pas? Voilà. Donc je me rappelle un dimanche, c'était encore à Nevers, en Bourgogne, qu'elle me demandait, mais papa, quand tu cherches des exemples pour illustrer ta prédication, tu racontes beaucoup d'histoires de ta propre vie. Et en général, tu as toujours l'air naze. Tu racontes comment tu t'es couvert de honte. Tu racontes comment tu as pas vu, pas compris, mal interprété, vouloir faire à ta tête. Je dis, écoute, c'est plus facile de me donner moi-même comme exemple au lieu de dire, voilà, je vais vous raconter une histoire de Sébastien. Désolé, on se connaît. Même en prison, où les vies sont vraiment ratées de ceux qui purgent leur peine, quand j'ai raconté des histoires de ma propre vie, il me disait, on croyait que les pasteurs seraient des saints hommes. Et je dis, vous avez raison. Mais par moments, on ne le sent pas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour redevenir saint? Je dis, c'est simple. J'ai reconnu. Je disais à Dieu l'idiot que je suis, le mal que j'ai commis. J'ai rien caché. Et la face de Dieu m'était plus cachée. Il veut raconter David aux générations futures les bienfaits que Dieu lui a accordé. Et d'ailleurs, ce matin, et avec cela je vais terminer, d'ailleurs, nous écoutons les paroles de David, comme si c'était lui, personnellement, qui nous raconte de ce qui lui est arrivé. Il raconte aux générations futures, nous entendons son témoignage de reconnaissance aujourd'hui, simplement 3000 ans plus tard. Mais à mes yeux, son témoignage a une pertinence qui va encore à nos jours. Et d'ailleurs, je me suis reconnu à de nombreuses reprises dans ce psaume. Je vous invite à la fin à prier avec moi. Prions. Au secours, mon Dieu, ne me laisse pas me perdre, être perdu à jamais peut-être. Je t'implore ta grâce, car j'ai compris que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé. Comme David, délivre-moi moi aussi, sauve-moi. Moi aussi, j'ai besoin d'une guérison. Rétablis-moi, Seigneur, car je sais que ta colère est juste. Elle dure un instant, en tout cas le temps qu'il faut jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Mais je sais aussi que ta grâce durera à jamais et je veux la recevoir, cette grâce, de tout mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, afin que je puisse être sauvé. Ainsi mon cœur chantera tes louanges et ne restera pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Et avec ces dernières paroles du psaume, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse.